Jeffrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, un mercredi sur deux sur Radio G. Salut Pablo.
Salut Seb.
On salue Seb et Romain.
Ben oui, qui sont absents, mais qui sont là dans le cœur, quoi.
Eh oui, ils sont absents pour des raisons indépendantes de leur volonté.
Absolument.
Et donc, on démarre l'année avec une émission Infoculture, avec du cinéma, avec des livres, des séries télé, de la musique.
Tout ce qu'on aime, quoi.
Comme d'habitude.
Et ouais, c'est génial. Et on en profite pour vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2024.
Oui, on espère que cette année sera douce et agréable. Forcément, à l'écoute de Radio G.
Et une année culturelle.
Ouais. Alors Pablo, on va démarrer cette émission avec de la musique comme d'habitude.
Bah oui.
Tu nous as proposé les Black Pumas.
Oui, alors je ferai une petite chronique dans 15 jours. Une petite chronique dans 15 jours pour présenter ce nouvel album qui s'appelle Chronicles of the Diamond. Mais là, on peut écouter un petit morceau qui s'appelle More Than a Love Song.
C'est ça.
Et qui a l'air super.
Oui, il est très bien, je l'ai écouté récemment, ouais. C'est tiré du dernier album, et c'est vrai que c'est un groupe vachement sympa. Ouais. Black Pumas dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G 101.5, bien sûr.
La radio qui fait le point.
But life is more than a love song. is more than a fantasy. This life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy.
The ground. You hear a voice sometimes, my inner child sing. Fly together.
Fly together.
Well, I feel so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and
fly together.
Black Puma, show 'em how.
Black Pumas avec More Than a Love Song dans Bangui Confia.
Voilà un petit groupe texan dont je vous parlerai dans 15 jours un peu plus profondément pour représenter un petit peu leur discographie et puis voilà, petite annonce.
Merci Pablo pour cette découverte musicale.
Cool.
Alors tout de suite, la suite.
Yes. Plein d'œil à Romain.
C'est ça. Alors Pablo, on a plusieurs films ce soir.
Ouais.
Exact. Si tu veux démarrer.
Alors non, je t'en prie parce que...
C'est vrai ?
Moi, ce sera plutôt une série que j'aurai à présenter.
Ah d'accord,
tout à l'heure.
Je pensais que tu avais un
non,
film.
Non, mais on va en parler parce que tu parlais d'une Palme d'Or.
Alors oui.
Que tu n'avais pas vu.
Alors je voulais vous parler de Sans Filtre. Pablo, on a déjà parlé dans l'émission de ce film quand il est sorti, puisque tu l'as vu au cinéma.
C'est ça.
Et donc moi j'ai profité un peu des congés de fin d'année pour rattraper mon retard avec les films de 2023, voire 2022 pour celui-là, mais c'est pas grave. Et donc Sans Filtre, c'est la Palme d'Or, tu le disais, au Festival de Cannes 2022. Alors c'est vrai que c'est l'histoire de Carl et Yaya, en fait, qui après la Fashion Week, se retrouvent en couple. Hein, c'est un couple. Alors lui est mannequin et elle est influenceuse, si je me trompe pas. Et ils sont invités sur un yacht. Parce que le film est en trois parties. Il y a d'abord
exactement.
Le couple, puis le voyage sur le yacht. Donc pour une croisière de luxe, hein, clairement, même de grand luxe.
De grand luxe.
Et tandis que l'équipage est aux petits soins hein, avec ses vacanciers. Des youtubeurs, des influenceurs, des mannequins, mais aussi des milliardaires russes ou autres acteurs de cinéma.
Ouais.
Et des gens donc très très riches. Le capitaine, lui, refuse de sortir de sa cabine. il est pas bien, il n'a pas envie de sortir de sa cabine.
C'est ça.
Et donc, un dîner de gala est organisé. Voilà. C'est très important ce dîner de gala. Il approche comme ça, petit à petit, et il va avoir lieu. Sauf qu'il ne va pas se passer comme prévu. Hein, les événements prennent une tournure inattendue, je dirais. Et surtout, les rapports de force s'inversent lorsque une tempête se lève et met en danger le confort des passagers.
Ah ouais.
Et là, il y a une troisième partie.
Ouais.
Sur une île.
C'est ça.
Une île déserte.
Une espèce de Robinsonade, mais après, on peut pas trop spoiler.
Non, mais c'est intéressant donc de dire qu'il y a trois parties.
Tout à fait.
Et que finalement, les rôles s'inversent.
Ouais. les rôles s'inversent. Et c'est vraiment, alors c'est un film clairement qui parle de la lutte des classes, hein, que tu évoques.
Alors oui, on peut le dire. D'abord, ça parle de la nature humaine.
Ouais.
Clairement, surtout au travers des bassesses et de la médiocrité de certains personnages.
Ouais.
Quand même. Parce que le réalisateur Ruben Östlund, qui est suédois, si je me trompe pas.
C'est ça.
Il n'hésite pas à pousser quand même le curseur assez loin, hein. D'ailleurs, sans filtre, ça va bien. Ouais. Au film, ce qui n'est pas le titre
original. Hein.
Non, à l'origine, c'était le triangle de la tristesse.
Ah oui.
Triangle of sadness. Triangle de la tristesse, qui est la pitrite que vous avez entre les sourcils.
C'est ça.
En fait, tu as raison. Le capitalisme prend cher dans ce film,
ouais.
À travers quelques-uns de ses représentants fortement malmenés,
ouais.
Pour pas trop dévoiler.
Carrément. Et c'est marrant d'ailleurs cette histoire de triangle de la tristesse, parce que ça part d'une anecdote au début du film.
Oui.
Où en fait comment il s'appelle, Yaya, c'est ça,
Yaya et ouais. Karl.
Et c'est Karl. Donc c'est Karl.
Yaya c'est la fille et Karl c'est
Karl, c'est le mannequin. On lui demande de marcher pour marche devant nous pour voir un peu comment tu te déplaces et tout. Et il marche en faisant un grand sourire, et là la nana de la prod lui dit, mais non, mais là on n'est pas chez H&M, quoi.
Ouais, il faut faire la tête.
En gros, il faut faire la tête. Si c'est pour Dolce Gabbana, tu fais la tête. Si c'est pour, évidemment, une sous-marque, genre H&M, tu peux sourire. Donc, il y a cette espèce de truc par rapport à cette ride qu'on a entre les yeux.
Et puis, ça parle beaucoup d'argent.
Ouais. Hein,
ça commence autour d'une addition. Dans un restaurant.
C'est ça.
Et puis ensuite, ça parle énormément d'argent sur le yacht, forcément, puisqu'il y a les milliardaires qui sont là, qui prennent le pouvoir, mais pas pour longtemps.
C'est ça. Et alors, moi, je sais pas si t'as été séduit par les deux acteurs aussi, comment dire, le capitaine.
Ah bah, le capitaine.
Et le capitaine qu'on
connaît. C'est le grand Woody Harrelson.
C'est ça, qu'on avait vu dans True Detective.
Oui, dans la première saison.
Première saison, qui est absolument...
D'ailleurs, il va y avoir une nouvelle saison de True Detective.
Exact, c'est bien annoncé parce que ce sera une quatrième saison. Donc, il est absolument excellent. Bon, voilà, il a des idées communistes.
C'est le seul Américain communiste.
Ça ne va pas. Voilà, lui, c'est un Américain communiste, et alors qu'on a un Russe...
Capitaliste
qui clairement vend de la... Selon ce qu'il dit, il vend de la merde,
c'est
puisqu'il est, il a fait sa fortune sur de l'engrais. Et donc c'est très drôle leur dialogue, alors que la tempête fait rage et que mais que la super réception part un peu en cacahuète.
On peut dire que c'est une comédie satirique,
c'est ça,
et que l'humour est décapant. C'est clair.
C'est ça.
Non,
on a l'impression d'un Titanic revu par les Monty Python, quoi, version moderne.
On peut dire que c'est une palme d'or largement méritée.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais, carrément.
Et alors, ce qui est intéressant, donc, c'est l'inversion des rôles. Mais c'est pas seulement les riches qui deviennent pauvres et les pauvres qui deviennent riches. C'est aussi les femmes qui prennent le pouvoir sur les hommes. Enfin, on vous laisse regarder le film. C'est complètement délirant.
Et une critique assez malicieuse du monde contemporain, quoi.
Voilà. Donc, sans filtre, Triangle of Sadness.
Ouais.
On vous le conseille à rattraper en VOD ou sur des plateformes.
Ah ouais. Voilà. Vraiment, vous passerez un bon moment.
Ouais, vous passerez un bon moment. Alors, autre film. Moi, j'ai trois films ce soir.
Vas-y.
Une comédie française et un western. Alors, Pablo, qu'est-ce qui te fait envie tout de suite, là?
Alors là, petite comédie française.
Ouais, alors Youssef Salem a du succès. Alors là, on était passé complètement à côté de ce film. Un film avec notre ami Ramzi Bedia. Et il n'est pas le seul, hein, dans ce film. Il y a aussi Noé Milowski. Que tout le monde connaît et qu'on voit régulièrement. D'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure de Noé Milowski. Il y a Mela Bedia, sa sœur aussi, qui joue dans le film. Et puis plein d'acteurs qu'on a déjà vus, qu'on connaît. Alors, de quoi ça parle, Youssef Salem a du succès? C'est l'histoire de Youssef Salem et il a du succès.
Ok. Jusqu'à
en fait,
là, tout va bien.
Il a 45 ans, Youssef Salem, il est écrivain. Mais jusqu'à présent, il avait vraiment raté sa carrière d'écrivain. Il n'avait pas de succès. Mais les ennuis commencent, justement, le jour où il sort un nouveau roman et que son roman rencontre le succès, justement. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que Youssef, il n'a pas pu s'empêcher de s'inspirer des siens. Il s'est inspiré de ses parents, de ses frères et sœurs, de ses amis. Et donc, évidemment, il a du succès pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Parce qu'il doit maintenant éviter à tout prix que, par exemple, ses parents
lit son livre.
Ah ouais.
Tombe sur, entre les mains de sa, parce que si le livre tombe entre les mains de sa famille, ça va être un drame, quoi.
Ah d'accord.
Donc
il en dit trop.
C'est très drôle. Ah bah oui, en fait, il a même pas changé les noms, quoi.
C'est ça, d'accord.
Parce qu'en fait, comme il a jamais de succès, il pense que son livre en aura pas, quoi. Sauf que ça va très très bien marcher, il va passer à la télé, enfin voilà, donc.
Aïe.
Donc c'est vraiment une comédie qui est remplie de bonnes ondes. On passe un beau moment devant cet écrivain allergique à la célébrité qui tente désespérément de cacher la vérité à sa famille, quoi. Et qui l'a inspiré pour écrire son roman.
Et donc
le casting est bon. Ouais, c'est drôle, le casting est bon. Les péripéties s'enchaînent, en fait, on s'ennuie pas du tout. Il y a pas de longueur. Il y a des scènes vraiment drôles. Donc c'est une réalisatrice qui a fait ce film. D'ailleurs, je peux vous retrouver son nom parce que j'ai pas retenu le nom de la réalisatrice. C'est Baya Kasmi, voilà. Et donc c'est vraiment excellent. Si vous aimez Ramsey, bah vous allez adorer. Sinon, il est très bien, hein, dans ce film. Il est chouette comme acteur parce que il joue bien. Le gars qui est pris dans un engrenage, il n'arrive pas à gérer. C'est une bonne surprise, voilà.
Je le vois bien là-dedans, en fait.
Ouais.
Ça me donne vraiment envie parce que c'est vrai que, en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a une petite palette, pas seulement sur l'humour, hein, on le connaît, hein, mais aussi sur peut-être un peu plus. Et là, c'est l'occasion de montrer son talent, quoi.
Ouais, c'est une excellente comédie, vraiment. Les acteurs sont au meilleur là dans ce film. Donc voilà, là aussi, petite découverte. Youssef Salem a du succès.
Eh ben top. Top.
Et on termine avec un western, alors.
Yes.
Murder at Yellowstone City.
Wow.
Alors là, on était aussi passé à côté. C'est bien d'avoir un peu de temps pour rattraper le retard.
Mais ouais.
Alors là, c'est vraiment le western au début très classique. Vraiment. Alors là, un western de qui est sorti donc l'année dernière. Hein. Très classique, mais qui finalement va s'avérer assez intéressant. Alors pourquoi? Parce que on est dans la ville de Yellowstone. Donc vraiment au 19e siècle, hein, à l'époque des cow-boys. Et des Indiens.
Mmh.
Et cette petite ville, elle était autrefois paisible, voilà, en plein essor, parce qu'il y a un homme qui, d'un seul coup, a trouvé de l'or. Voilà.
Ok.
Et en fait, ce dernier, là, celui qui trouve de l'or, il est retrouvé mort aussi. Ah! Alors ouais. Là. Du coup, il y a une enquête. En fait, c'est un western, mais c'est aussi une enquête. En fait, c'est assez marrant.
Voilà.
Et donc, le shérif, lui, il arrête rapidement un suspect qui est le nouveau venu en fait dans le village, un homme mystérieux qui vient d'arriver, donc forcément tout de suite c'est lui le premier désigné suspect, voilà. Mais rien n'est aussi simple, hein, bien sûr, sinon ça n'aurait pas d'intérêt.
Bien sûr.
Rien n'est simple dans cette ville de l'Ouest américain, et plus d'un habitant a des secrets à garder et des raisons de le tuer.
Ah ouais.
Sorte de Cluedo.
Ouais, voilà.
donc, c'est un excellent western, en fait. Sur fond d'enquête criminelle, voilà, comme je vous le disais. D'accord. Avec des acteurs qu'on connaît peu, à part Gabriel Byrne, qui est assez connu. Mais sinon, les autres acteurs, on les connaît peu, mais ils sont très charismatiques, très impliqués dans leur rôle. Et le scénario, il y a beaucoup de suspense. Et ça tient le spectateur en haleine jusqu'au final. Et donc, c'est très beau visuellement, les westerns en général, c'est bien réussi visuellement.
Oui, j'imagine qu'on doit avoir une vue sur des grands espaces de Yellowstone. Pardon. Et puis du coup, ouais, ce côté. Alors, est-ce qu'il y a des scènes d'action aussi?
Ah oui, carrément. Ouais. Parce que le film est assez sombre. Ouais. En fait, le film est comment dire? Il est plein d'action, mais il y a aussi ce mystère, quoi, qui
ouais.
plane. Parce que le tueur ne va pas se contenter de tuer seulement le chercheur d'or. Il va en éliminer d'autres. Voilà. Donc on cherche, nous spectateurs, à savoir qui est le coupable.
D'accord.
et on va avoir une surprise, voilà. Donc je n'en dis pas plus, mais je vous conseille aussi Murder at Yellowstone City.
Eh ben super, merci beaucoup.
Donc sans filtre, Youssef Salem a du succès et Murder at Yellowstone City, voilà.
Trop bien.
Un petit peu de musique, Pablo.
Allez.
Alors, tu voulais qu'on écoute le dernier morceau des Beatles.
Ah ouais, alors figurez-vous que cette année, enfin l'année dernière, du coup, en mai dernier, les Beatles ont sorti leur dernier album. Alors c'est incroyable, évidemment.
Alors est-ce que c'est un album ou c'est juste un titre?
Non, un titre. Excusez-moi.
Ah oui,
un titre. En fait, il faut savoir que c'est un titre qui avait été enregistré par
John Lennon.
Il y a à la fin des années 70, on est juste un peu avant son assassinat. Hein.
1980.
Ouais, c'est ça. Et en fait, dans des conditions un peu artisanales, en gros sur une bande magnétique, et où son piano était quand même assez fort, mais sa voix magnifique, très planante, vous allez entendre. Sauf que jusque-là, on n'avait pas la technologie pour reprendre la, comment dire, extraire cette voix. Ce qui a pu être fait grâce à l'intelligence artificielle. Et justement une bonne utilisation de l'IA qui a permis justement à la production du fils de Martin.
George Martin.
Et puis et donc avec
Paul McCartney, Ringo Starr.
Et voilà, Ringo Starr. Donc les trois Beatles actuels s'y remettent.
Alors deux, parce que il y en a deux qui sont morts.
C'est ça. Mais je dirais que George Martin est un peu un héritier de l'ombre. Et donc ils refont ce morceau. Et bon, pour vous dire, hein, faites-vous votre propre idée. C'est sympa. On retrouve quand même les Beatles.
La qualité des Beatles.
Voilà.
Ça s'appelle Now and Then. Ouais. Et c'est maintenant.
Dans Bande Geek Mafia sur Radio G 101.5.
Radio qui fait point.
I know it's true.
c'était les Beatles avec Now and Then dans Bande Geek Mafia sur Radio G
101.5.
C'est toujours, ça fait toujours plaisir. En fait, j'allais dire, ouais, c'est toujours agréable, mais c'est vrai.
Ah ouais,
les Beatles, c'est sympa.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio là.
À toi, Pablo.
Alors, bah écoutez, là, je vais vous parler de Lupin, la saison 2 sur Netflix. George Kay et François Usan à la réalisation. Alors, Lupin revient avec une saison trépidante et plus aboutie que la première. Lupin, ou plutôt Hassan Diop, qui s'en inspire, est toujours aussi brillant, mais rien ne va plus dans sa vie. Trop de problèmes s'accumulent. Le passé ressurgit dans le présent, sa vie privée comme publique. Tout est en crise. Un petit synopsis. Fini de jouer. En voulant se venger de Pellegrini dans la première saison, Hassan a mis à mal sa propre famille. Il est devenu l'ennemi public numéro un, recherché par toutes les polices de France et d'Europe. Pardon, il se cache, mais bon, ça il a l'habitude, me direz-vous, car la dissimulation et le travestissement sont ses spécialités. Non, le problème est qu'il se cache, mais ce qui est plus grave pour sa famille, c'est sa femme et son fils, c'est qu'ils sont constamment traqués, voire harcelés par les médias et surveillés par la police. Comment faire pour les mettre à l'abri? Fuir tous ensemble? Mais alors, ce serait pour eux une vie clandestine de cavale et d'insécurité constante. Ou alors, se livrer à la police et assumer ses responsabilités. Cela semble possible, mais alors un mystérieux maître chanteur intervient dans la partie et contraint Hassan à voler de célèbres objets. Bref, Arsène Lupin, ou Hassan Lupin, est bel et bien piégé. Comment va-t-il s'en sortir cette fois-ci? Voilà.
Mystère.
Alors, Omar Sy, qui campe le rôle principal, interprète un Arsène Lupin brillant, flamboyant de malice parfois, qui joue bien de sa palette affective, ainsi que de son humour contagieux, de son rire contagieux. Un bémol cependant, les personnages secondaires, à mon avis, ne sont pas assez travaillés, pas assez approfondis psychologiquement et moralement. Je les trouve, enfin voilà, ils sont un peu là en faire-valoir d'Hassan Diop, si vous voulez. En revanche, pour ce qui est de ce dernier, nous en apprenons beaucoup plus sur son enfance, sur sa psychologie, voire sur son inconscient. Donc l'intrigue est très bien construite, souvent on observe l'action, puis les flashbacks nous montrent toute sa préparation, la préparation de cette action. Les détails que nous avons manqués, on alterne entre un point de vue extérieur et un point de vue interne. Bref, une saison 2 de Lupin que je trouve bien mieux réussie que la première, plus palpitante. Voilà, je vous la conseille, Lupin saison 2 sur Netflix. Merci de votre écoute.
Pas de déception alors?
Non, ça va, un petit bémol comme je vous dis, mais si vous voulez passer un bon moment, les images sont vraiment belles, c'est bien construit, on en apprend plus sur le personnage. Comme je vous dis, c'est vrai qu'il y a ce côté personnage secondaire.
Tout est centré sur lui, quoi.
C'est ça. Et c'est dommage parce que, bon, il y a quand même des personnages qui apparaissent, mais si vous voulez, d'habitude dans les séries, c'est quand même aussi le succès des séries, c'est aussi les personnages secondaires.
Ah oui, bien c'est un tout, oui, bien c'est sûr. Un tout. C'est une histoire, c'est des personnages, voilà. Faut qu'il y ait une cohérence.
C'est ça.
Là, c'est centré sur le personnage
c'est
de Lupin.
C'est très centré sur lui, c'est ça.
C'est la star.
Et ouais, c'est un peu trop ça.
Moi, ce qui m'avait déçu dans la première saison, j'ai pas vu la saison 2, hein, c'est la fin, en fait. Ça ouais. Finissait brutalement, on sentait que, en fait, ils avaient coupé quelque chose. Alors, il manquait quelque chose, en fait.
Ouais. Je suis d'accord avec toi. Il y avait un petit côté comme s'ils avaient voulu bâcler, alors qu'en fait.
Mais moi, je pense qu'en fait, au départ, il y avait qu'une grande saison, et peut-être qu'ils l'ont coupé en deux. Tu vois, ça donnait cette impression.
Ouais, c'est ça, c'est ça.
Bon,
c'est ça.
Merci Pablo.
Eh ben, merci.
Autre série, alors beaucoup moins légère que Lupin. Au contraire, c'est une série dramatique. C'est Sambre. Sambre, c'est une mini-série. Franco-belge sur France Télévisions, donc elle a été diffusée sur France Télévisions. Vous pouvez la voir en replay gratuitement hein, sur France TV. C'est une série en 6 épisodes. Alors les épisodes durent 1 heure hein, chacun à peu près. Et cette série, en fait, elle s'inspire d'une histoire vraie. Elle s'inspire librement de l'affaire dite du violeur de la Sambre. Voilà.
Alors
terrible affaire. Alors, l'histoire se déroule entre 1988 et 2018, donc sur 30 ans. Et ça retrace la traque du violeur de la Sambre à travers les années. Et ça retrace comment ce dernier a réussi à passer entre les mailles du filet pour continuer à frapper pendant 30 ans. Mmh. Et chaque épisode, alors c'est ça l'intérêt de cette série, c'est que chaque épisode se place d'un point de vue différent. En alternant entre celui des victimes, de l'institution judiciaire, politique, scientifique, etc. Donc ça, c'est vraiment bien vu parce que le premier épisode est centré sur la première victime. D'accord. Et sur les premières victimes. Et puis, par exemple, le deuxième épisode est centré sur la juge d'instruction qui mène l'enquête un peu plus tard. Et puis, le troisième épisode sur la maire, le maire de la ville, voilà, qui veut intervenir aussi. Et petit à petit, on se rend compte que à chaque fois, le tueur, enfin pas le tueur d'ailleurs, le violeur, parce qu'il tue pas forcément ses victimes, passe entre les mailles du filet, parce qu'en fait c'est pas un rôdeur, c'est quelqu'un qui est complètement intégré en fait.
Ouais.
Parce que nous on sait qui est le violeur.
Ah nous on sait.
Eh oui, nous on le sait okay. Et on voit en fait qu'il il peut côtoyer même ses victimes et les autres. Donc c'est très troublant, surtout que c'est basé sur une enquête judiciaire et une enquête journalistique, puisque il y a eu un livre, Sambre, radioscopie d'un fait divers, publié en janvier. Et voilà, donc le violeur de la Sambre, il s'appelait Dino Scala. Alors dans la série, les noms sont changés. Les noms sont changés.
Ok.
Et en fait, il agit toujours dans le même secteur, très tôt le matin, avec toujours le même mode opératoire. Voilà. Et ce qui est très mis en avant aussi dans cette série, c'est la défaillance totale de la police, quoi.
Ah mince.
Ouais, parce qu'en fait, c'est aussi le manque de moyens, hein, et
ouais,
c'est aussi
c'est
tous les préjugés des hommes sur les femmes. C'est aussi, quelquefois, c'est difficile à supporter parce que c'est aussi l'incompétence, voilà, de certains, qui fait que cette histoire va durer très très longtemps, quoi.
Ouais. Et c'est là qu'on voit que ça me fait penser un peu à La Nuit du 12,
ouais,
film que tu avais vu,
ouais, ouais,
où effectivement on voyait bien que les préjugés sur les femmes font obstacle en fait,
ouais,
à un bon déroulement de l'enquête. Quoi.
Alors, les préjugés sur les victimes qui sont des femmes, mais aussi sur les femmes qui veulent régler cette affaire, par exemple la juge, la mère, etc. Voilà.
Et juste une question, l'enquêteur, alors c'est un gendarme ou c'est un policier? Comment ça se
passe? Alors on a la police en fait qui ouais, enquête plus ou moins bien et plus ou moins longtemps en fait. Et surtout on a le point de vue des autres. Par exemple, le premier épisode est centré sur la première victime qui est jouée par Alix Poisson, qui est vraiment géniale. Et le troisième épisode est centré sur la maire de la commune qui est jouée par Noémie Lovski, dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Il y a Olivier Gourmet aussi qui joue un commandant. Et Clémence Poésy qui joue une scientifique, voilà. Et en fait, chacun essaye, voilà, d'apporter sa pierre à l'édifice pour trouver ce violeur qui sévit tout le temps. Hein, tout ouais, le temps, il y a tout le temps des victimes en fait. Mais ça n'avance pas à cause de la police, en gros, hein,
ouais,
clairement. Mais c'est compliqué, quoi.
Ouais.
C'est compliqué parce que le type, en fait, connaît les policiers.
D'accord.
Voilà. Donc, je peux pas trop vous en dire. Mais alors, l'acteur qui joue, alors Enzo Salina dans la série qui joue le violeur, il est incroyable cet acteur.
D'accord.
Parce que c'est très difficile à jouer comme rôle. Hein. C'est vraiment
ouais,
le salaud total, mais qui a une vie de famille, qui a un métier, qui entraîne les jeunes au foot, enfin qui est complètement, qui passe complètement sous les radars. Quoi.
Complètement.
Donc voilà, okay, une série très très forte. Hein, ça s'appelle Sambre. Moi je vous le conseille. Hein, c'est pas drôle. Hein, c'est vraiment très sombre. Sambre. Alors la Sambre, c'est la rivière hein, qui passe à cet endroit-là.
Mais très original,
cette
idée de prendre un point de vue par épisode.
Voilà,
pour changer la perception des choses.
Les points de vue changent et le temps passe. Ouais. Mmh. Au début, on est en 88, puis après on est en 96, puis après on est en 2003. Voilà, et ça n'avance pas. Et chacun essaye de faire avancer les choses, mais ça n'avance pas. Quoi.
Ouais, parce que limite, à un moment, ça devient un cold case en fait.
L'affaire elle est pas classée, mais
ça doit être repris ou.
Mais parce qu'il y a tout le temps des victimes.
Ouais, c'est ça.
En fait, il y a tout le temps des femmes qui viennent porter plainte, voilà, parce qu'elles sont agressées et toujours de la même manière. Quoi. C'est fou que ça ait duré aussi longtemps.
C'est incroyable.
En fait, je pense que c'est une série aussi sur la lente prise de conscience de la société face à ces violences sexuelles. Je crois que c'est de ça que ça parle en fait.
Impeccable.
Voilà, donc deux séries très différentes.
Ah ben ouais.
Lupin.
Ouais,
sur Netflix.
Plutôt légère.
Et Sambre sur France Télé. Voilà.
Très bien.
Pablo, tu voulais écouter Eminem.
Allez.
The Real Slim Shady.
Ouais.
Please Stand Up.
Allez.
Dans Band Geek Mafia.
Sur Radio Chez 101.5, la radio qui fait le point.
C'est pour Maya et Gabriel ?
Eh oui, exactement.
attention,
spéciale dédicace les filles.
Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
Act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem.
Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though.
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't, but it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hump dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me.
But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird?
Why? So you guys can just lie to get me here? So you can sit me here next to Britney Spears? Shit, Christina Aguilera better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV.
Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim.
I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MVD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off a Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go?
I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Yes, there's a Slim Shady in all of us. Fuck it. Let's all stand up.
Merci Pablo.
Eh ben c'était top. Eminem.
Please stand up.
Please stand up.
C'est difficile de couper ce titre magnifique. On attend la fin. Voilà, ça se termine. J'ai oublié de dire que Sambre est réalisé par François-Xavier de Lestrade, je crois, qui est réalisateur du film, excellent film, Un coupable idéal, sur la peine de mort aux États-Unis.
Ouais, et c'est vrai qu'on se disait justement en off, mais du coup on peut le dire, c'est que c'est un réalisateur qui est hyper engagé. Et toi, tu disais du coup que cette série est un hommage.
Oui, c'est ça, aux victimes en fait. Il veut vraiment mettre en valeur les gens qui se sont battus pour aider les victimes. Et le tueur n'est pas du tout, enfin le violeur n'est pas du tout au centre. Il n'est pas du tout mis en avant. C'est vraiment le pauvre type, quoi. Voilà.
Trop bien.
Constant, bitches.
Oui, c'est vrai. Ça surprend toujours.
C'est Romain, ça.
C'est ça.
Non, tu vas nous jingle. C'est parti.
Maman disait toujours. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et ben là, on va tomber sur un polar. Alors, un polar qui nous... de Yann Manouk. Yann Manouk, c'est Patrick Manoukian. C'est un polar qui s'appelle Yeroul Delger. Alors, le titre est incroyablement compliqué parce que Yeroul Delger, c'est le nom du commissaire. Et encore, je vous donne que son prénom parce que je suis incapable de prononcer la suite. Il est paru en 2013. C'est un polar sombre et lumineux à la fois, à l'image de son personnage principal, violent et mystique, torturé et méditatif. Un petit résumé. Le récit se déroule en Mongolie, principalement à Oulan-Bator, mais aussi dans les steppes du Khenti et la région des Flaming Cliffs. Dans les années 2010, l'intrigue policière, intense et violente, est entourée d'une description de la société mongole du début du XXIe siècle. 5 ans plus tôt, Kushi, la fille de l'inspecteur Yeroul Delger, a été enlevée et assassinée pour l'obliger à abandonner une enquête sur la corruption liée au rachat des terres de la steppe mongole. La découverte du cadavre d'une autre petite fillette va le replonger dans les mêmes tourments. Dans un pays à l'histoire et au paysage sauvage, une guerre sale d'argent et de pouvoir s'est déclarée autour d'une des richesses minières les plus rares et les plus convoitées de la planète. Pour lutter contre les puissances qui veulent s'accaparer son pays, Yeroul Delger va puiser ses forces dans les traditions héritées des guerriers de Genghis Khan, dans les techniques modernes d'investigation et dans la force de ses poings. Parce qu'un homme qui a tout perdu ne peut rien perdre de plus. Il ne peut que tout reconquérir, peu à peu, sans pitié ni pardon.
Wow.
Wow. Et oui, et donc nous voilà transportés à Oulan-Bator et dans les steppes de la Mongolie, dans des lieux que nous n'avons pas souvent l'habitude de connaître, hein. Dans des lieux où la modernité technologique côtoie la tradition séculaire des yourtes et des croyances. Des lieux où la sagesse mystique et la spiritualité se confrontent à la bassesse humaine, à la violence la plus barbare. Autrement dit, le commissaire Yeroul Delger, sa jeune lieutenant Oyun et sa médecin légiste Solongo naviguent en eau trouble car ils sentent bien que derrière les crimes affreux, d'autres réalités sordides se cachent, des manipulations en cours pour les corrompre ou les faire taire. Yann Manouk emprunte tous les codes du polar noir classique, mais avec une nuance de violence en plus. Cette violence parfois qui vous explose à la gueule, façon James Ellroy ou Caryl Ferré, si vous voyez un peu ce genre de référence. Mais il y a surtout son style original, plein d'humour, de tendresse et d'anecdotes, un peu à la Fred Vargas. C'est ce mélange assez improbable qui fait toute l'originalité de l'auteur. L'auteur nous décrit les vastes étendues de la steppe mongole, parfois des détails d'un plat traditionnel qui semble délicieux, et campe des personnages fascinants et profonds. Un excellent polar original et puissant, qui mérite amplement ses nombreux prix littéraires. Bonne lecture les geeks et merci de voter.
Merci Pablo.
Merci à vous.
Est-ce que tu connais ce groupe? C'est un groupe de métal mongol. Ils s'appellent The Hui. Ils sont passés au Hellfest d'ailleurs.
Et vous remarquez cette façon qu'ils ont de chanter, qui est avec la double voix.
Je croyais qu'il y avait deux chanteurs.
Non, il y a une double voix.
Il y a une double voix. à découvrir The Who, H-U. Je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, The You.
Je sais pas. The Who, ça sera très
H-U,
bien.
H-U, voilà.
Ouais.
Et c'est très très
quand
bien.
Quand je disais cette double voix, c'est-à-dire qu'il place la voix très très bas.
Ouais, c'est une voix qui résonne.
Mais qui résonne, qui crée des harmoniques dans les aigus et qui crée une espèce, une technique, hein, des. Propre à la Mongolie et qui font une espèce de double voix comme ça incroyable entre la basse très puissante et puis le presque de l'infrabasse et on a des aigus qui arrivent. Voilà.
Alors de quoi je vais vous parler maintenant ?
Eh bien là toi t'allais parler d'un
petit indice.
Hey hey mama said the way you move gonna make you sweat gonna make you groove.
Yeah. Un petit Led Zeppelin.
Et oui, parce que je vais vous parler d'un livre sur Led Zeppelin. Alors, ça s'appelle Led Zepp, gloire et décadence du plus grand groupe du monde.
Yo, carrément.
Par Barney Hoskins. Alors, c'est la folle saga de Led Zeppelin hein, à travers une gigantesque histoire orale faisant intervenir tous les acteurs de l'époque. Alors quand je dis histoire orale, c'est qu'en fait, ce n'est pas un récit de la carrière de Led Zeppelin. Ce sont essentiellement des témoignages des musiciens eux-mêmes, des managers, des roadies, des petites amies, etc. qui ont été compilés chronologiquement, en fait. Donc c'est des interviews, c'est des extraits d'articles, etc. pour retracer la carrière de Led Zeppelin. Donc on a les musiciens, on a Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, mais aussi Jeff Beck, Rod Stewart, Donovan. On a des journalistes, des producteurs, les parents, les roadies, même les groupies. C'est un travail pharaonique. Hein.
Tout le monde intervient.
Tout le monde intervient. C'est un travail pharaonique à l'image de ce qui fut le plus grand groupe du monde à cette époque, dans les années 70. Alors c'est très intéressant, c'est très vivant. En fait, pour tout fan de Led Zeppelin, honnêtement, on apprend plein de choses. Pour les autres, vous allez peut-être être convertis. Bon, il y a aussi des histoires très, très, très troublantes, voire pas très reluisantes, on va dire. Mais bon, c'est ça le sexe, drogue et rock'n'roll. Hein,
ouais. Voilà. Eh ouais, j'imagine.
C'est vraiment la folie. Hein. Led Zeppelin, on se rend pas compte. Hein. C'était vraiment le plus grand groupe du monde. C'était devant les Rolling Stones. Alors, les Beatles venaient de s'arrêter, mais ils étaient devant les Rolling Stones et tout ça. Ils étaient encore plus célèbres. Ils remplissaient des stades entiers aux États-Unis.
Voilà, donc les Pink Floyd à l'époque. Et tout,
voilà, c'est l'époque des Pink Floyd.
Ouais, ouais.
Et donc, ils donnent la parole à tous ceux qui ont vécu cette période complètement folle. Quoi. Et puis, on découvre des personnages comme Peter Grant, qui était le producteur de Led Zeppelin. Et c'est assez hallucinant. Beaucoup de drogue aussi.
D'accord.
C'est sexe, drogue et rock'n'roll. D'ailleurs, c'est la drogue qui va mettre fin à la carrière de Led Zeppelin, puisque John Bonham, le batteur du groupe, va décéder d'une overdose. Clairement, il va lui aussi s'étouffer dans son vomi. Il était alcoolique et drogué, donc il est mort à 32 ans. Pablo ?
Ouais, je me demandais, du coup, est-ce qu'il parle aussi, j'imagine, de ce qui a inspiré leurs chansons ?
Oui.
Ouais, c'est ça.
Oui, il y a des. Alors, les chansons, bien sûr, sont évoquées, la création artistique est évoquée, bien sûr, hein, il n'y a pas que des choses un peu, décadentes.
Ouais, voilà.
C'est beaucoup de décadence. Non, au départ, c'est vraiment Jimmy Page qui fait partie des Yardbirds et qui veut que le groupe continue parce qu'en fait Jeff Beck s'en va, enfin il y a toute une histoire et il continue avec les New Yardbirds qui vont devenir Led Zeppelin en fait. Et en fait il y a deux clans dans le groupe, il y a les gars de Londres, c'est-à-dire Jimmy Page et John Paul Jones, et il y a les gars de Birmingham, c'est-à-dire Robert Plant et John Bonham. Et ça va créer une espèce d'alchimie incroyable parce qu'ils sont tous les quatre des surdoués dans leur domaine quoi. Et donc dès le premier album le succès est là et puis ça ne va faire que s'amplifier jusqu'à Physical Graffiti. Donc en fait entre 69 et 75 c'est le plus grand groupe du monde quoi. À partir de 75, 77, 79 c'est la décadence totale jusqu'à la mort en 80 de John Bonham. Donc on évoque effectivement la création de certaines chansons comme Stairway to Heaven par exemple, évidemment.
Ouais.
Donc moi je vous conseille, c'est un livre qui mérite de devenir un classique.
Oh bien.
C'est chez Rivage, Rivage Rouge. Led Zepp, Gloire et décadence du plus grand groupe du monde. Voilà.
Eh ben merci, ça donne vraiment envie.
On va continuer à parler de musique alors.
Bah ouais, parce que je crois que tu
j'ai fait un top.
T'as fait un top 12.
J'ai fait un top 12. Alors avec Romain qui n'est pas là, c'est bien dommage. On aime bien faire des listes, on aime bien faire des tops, mais je sais qu'on a aussi contaminé les autres. Hein,
c'est ça, voilà. C'est ça.
Et donc quelquefois on fait des top 10 parce que on a plein d'idées. Quelquefois c'est plus difficile de faire des top 5, voire des top 3.
Oh là là. C'est déchirant.
Alors pour l'année 2023, je vous ai fait un petit top 12 des albums qui sont sortis en 2023 que j'ai beaucoup aimé. Alors si ça vous intéresse, je vous partage ça et puis on pourra peut-être même écouter quelques extraits.
Eh ben volontiers.
Alors cette année donc est sorti par exemple un album de The Kills. Ah oui, The Kills. Alors ça c'est pour Florence, hein, c'est un groupe qu'elle aime beaucoup. Vous connaissez The Kills?
Oui. The Kills, oui, parce avec que t'en as déjà parlé.
Ouais, donc il y a une chanteuse,
ouais.
Alison Mochart, et un guitariste. En fait, ils sont deux. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas de batterie, c'est une boîte à rythme. Et ils ont commencé en faisant du rock bien péchu. Et puis là, maintenant, ils sont plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus subtil, on va dire, moins rentre-dedans. Voilà. Mais qui est toujours de qualité. Numéro 12.
Avec une petite note électro un petit peu.
Alors maintenant oui, au début c'était plus rock, maintenant c'est plus électro. C'est excellent. Alors au numéro 11, Pablo, on va pas écouter les titres en entier, c'est assez frustrant, on en écoutera peut-être plus la prochaine fois, je ne sais
ouais,
pas.
Bien sûr, ça donne des idées pour la suite.
Un groupe que j'ai découvert au Hellfest cette année. Alors ça, un groupe de filles qui s'appelle Grandma's Ashes. Les cendres de grand-mère.
Ah ouais.
Et j'ai découvert ça au Hellfest. Par hasard, je connaissais pas ce groupe. C'est trois filles. Et c'est excellent. Si vous aimez le rock, le hard rock, c'est un peu stoner. C'est très chouette. On écoute un extrait.
Allez,
Grandma's Ashes.
Grande guitare. Super dur.
Là, si vous aimez Queens of the Stone Age, par exemple, ça peut vous plaire. Donc, découvert complètement par hasard au Hellfest, et je suis resté jusqu'à la fin du concert.
Ah ouais. Tu les as vus l'année dernière ?
Ouais, en juin 2023.
D'accord.
Voilà, une autre découverte numéro 11.
Trop bien. C'est rare, en plus, des groupes de filles métalleuses comme ça.
Ouais, c'est bien. Hein.
Ah ouais, trop bien.
Alors en numéro 10, il y a Feist. Alors Florence et moi, on est vraiment des fans de cette chanteuse canadienne. Ouais. On va écouter un extrait. Alors là, c'est folk.
Complètement folk.
Et on adore écouter Feist.
Mais très pour Florence. Planante, spéciale dédicace.
Quelle belle voix.
Ouais.
Voilà, si vous avez envie d'être tranquille, vous détendre, vous pouvez écouter Feist.
Dans Alors son dernier album, elle met plus de cœur d'ailleurs. Et là on l'entend plus clairement.
Ouais. Ouais. Elle est revenue à ce qu'elle faisait au début.
Ouais, carrément. Parce que parfois elle avait des côtés un petit peu disco.
Oui, il y a eu.
Voilà, c'est ça. Et là elle revient plus à du folk avec plusieurs voix, plusieurs harmoniques. Très sympa. Et j'en profite aussi pour dédicacer ça à Sarah.
Ah, cool. Alors, on était au numéro 10, numéro 9, Dépêche Mode, qui a sorti un super album cette année.
Ah bah alors là, je suis passé, mais totalement à côté.
C'est vrai ?
Ouais, grave.
Alors, en fait, il y a eu le décès d'un des membres du groupe, hein, voilà, et donc il nous reste Dave Gahan, le chanteur, et Martin Gore, le compositeur. Ils sont toujours là, et donc ils ont sorti un album assez sombre, qui s'appelle Memento Mori, qui veut dire « N'oublie pas que tu vas mourir », en latin. Et ce titre, Ghost Again, a beaucoup tourné. Moi, j'ai fait découvrir ça à Paul, qui a bien aimé Dépêche Mode. Du coup, c'est dans mon top. Faut que je me dépêche, il est 56, je vais pas y arriver. On va peut-être pas tout écouter. Ouais,
non, sinon tu pourras aller parler des titres et on les réécoutera,
on les écoutera
dans 15 jours.
Alors, en numéro 8, il y a David Walters, évidemment. Je vous ai un petit peu bassiné avec David Walters, Gimme Love.
Ah oui, exact.
Un chanteur français qui fait de la musique très soul funk, créole, j'adore. Mm-hmm. Ouais, ouais. Ensuite, il y a Adi Oasis, vous en avez beaucoup parlé aussi.
Ouais.
De chanteuse, bassiste, excellente. Et évidemment, il y a The Hives qui a sorti un album. Romain en a parlé. Je me souviens que Romain en a parlé dans une émission.
Exact.
The Hives, le plus grand groupe du monde.
Ah oui, oui. groupe suédois, c'est ça.
Groupe suédois qu'il faut absolument voir en concert. The Hives en concert.
Je crois que c'est ça qui est vraiment. Ouais.
C'est top. Slow Dive. Alors, Slow Dive, c'est un groupe de shoegaze. C'est-à-dire, c'est de la musique pop rock, mais où les mecs. Ça s'appelle du shoegaze parce qu'ils regardent leurs chaussures quand ils jouent.
Ah ouais, carrément.
Et donc, c'est très calme en fait. C'est très planant, mais c'est génial. Il y a aussi un album de Metallica cette année.
Oui.
Et en fait, on l'a vite oublié cet album parce qu'il est pas top. Ouais. Mais il est dans mon top quand même.
Ouais.
De cœur.
C'est clair. Et je crois que on avait passé un titre il y a quelques temps.
Lux Eterna, un morceau qui ressemble à du Motorhead un peu.
Ouais. C'est ça.
C'est le meilleur morceau de l'album.
Ouais.
Un album aussi dont tu as parlé, Pablo, on a écouté un titre, c'est Iggy Pop.
Oui.
Qui a sorti un album cette année excellent.
Ouais.
On est revenu à un Iggy Pop rocker malgré son âge.
Ouais, complètement. Très péchu, très très beau.
Ouais. Très chouette album. Ouais. Queen of the Stone Age, dont je parlais tout à l'heure, a sorti un album aussi, In Time's New Roman.
Alors là, on est rendu à ton.
On est au numéro 2 là.
Numéro 2, hein.
Ah ouais, parce que là, il est 57.
C'est ça.
Donc je speed. Et puis, on va finir avec mon numéro 1. Je vous ai saoulé avec ça, mais je continue. Je sais que Pablo, ça t'a déstabilisé au début.
Non, mais c'est vrai. Et t'as bien fait d'insister parce que.
C'est parce que c'est génial.
Parce que c'est vraiment bon.
On va écouter Sans Froid. De
trop
groupe
bien.
Nantais.
Allez, yes.
Dans mon Geek Mafia sur Radio G.
101.5, la Radio G.
Numéro 1.
Number 1.
Geek Mafia, bon, votre émission Infoculture.
Mais oui, alors on vous promet que dans les semaines à venir, on vous repasse plein de morceaux qu'on n'a pas pu la diffuser, mais ne vous inquiétez pas, on va vous bichonner tout ça.
À dans 15 jours, restez à l'écoute de Radio G.
Eh ben ouais, merci à toutes et tous.
Salut.
À bientôt. Ciao, ciao. Just like